point de vue. Mathieu Monzou.
Bonjour et merci d'être dans l'émission Point de vue sur Zéphyr. Deux invités à suivre essentiellement dans cette émission. Il s'agit de Dr Sonia Tchatchet, médecin chef de la commune Agouineve 2, responsable du CMS de l'Ebacito, qui nous parlera bien sûr de la pandémie de la Covid-19 en ce moment où circule le variant Omicron dans certains pays. Le second invité, c'est Monsieur Dossou Banka, consultant juridique prêt de Resolve to Save Lives. Il abordera la question de cadre juridique efficace des urgences de santé publique, notamment ses 12 caractéristiques. Le confrère Ibrahim Macha, directeur de publication du journal Temps Nouveau, est avec moi pour recevoir les deux invités. Roger Telou, mon complice technique des vendredis, est encore au poste. Mathieu Mouzo, c'est mon nom.
Zéphyr Akara, Zéphyr Sokodé, Zéphyr Bafilo, Zéphyr Alejo, Zéphyr Niantogo, Zéphyr Pagoda, Zéphyr Aketao, Zéphyr Kanté, 95.5.
La première radio régionale autogroupe Zéphyr, une couverture exclusive.
Décor planté, invité présent, il ne reste qu'à démarrer cette émission. Mais avant, on va se dire bonjour d'abord. Ibrahim Macha, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour aux auditeurs et aux auditrices de Zéphyr FM. Bonjour monsieur et madame les invités. Et comme c'est vendredi, j'ai l'habitude de souhaiter bonne prière du Djouma à mes frères et sœurs en islam. Donc bonne prière et que Dieu veille sur le Togo.
Qu'il exauce également les prières. Directeur d'application du journal Temps Nouveau, les invités sont là, comme je l'ai dit, Dr Sonia Tchatchet, bonjour.
Bonjour Mathieu et bonjour à tous les auditeurs et auditrices de la radio Zéphyr.
Oui, merci d'être encore avec nous ce matin. On était ensemble ici, je crois, en septembre dernier. Vous êtes de retour. Merci beaucoup, médecin chef de la commune à Agouineve 2, responsable du CMS de l'Ebacito. Le second invité, c'est M. Dossou Banka, consultant juridique près de Resolve, consultant juriste, consultant juriste près de Resolve to Save Live. Merci à vous d'être là pour nous parler d'un sujet très important qu'on néglige parfois. Merci beaucoup.
Merci Mathieu. Bonjour chers auditeurs, auditrices. Mmh. Bonjour mesdames, messieurs.
Voilà, nous parlons de la crise sanitaire, mais il y a des gens qui ont fait un travail autour, pour savoir comment pouvoir maîtriser tout cela. Nous avons avec nous M. Dossou Banka, on va lui donner la parole. Je rappelle qu'il est juriste, consultant près de Resolve to Save Live. M. Banka, vous allez nous entretenir sur le cadre juridique des urgences de santé publique en cette période de crise sanitaire. On l'a dit qu'il secoue le monde entier. Mais pour commencer, dites-nous d'abord, c'est quoi une urgence sanitaire en tant que juriste?
Merci, merci Mathieu.
Oui, allez-y.
Une urgence de santé publique correspond, si nous tenons compte de la définition, à un événement ou à une menace imminente qui est liée à une maladie ou à un état de santé et qui présente un risque élevé en termes du nombre de décès ou d'invalidité à long terme ou permanente. Mmh.
Voilà, en cette situation où nous parlons de crise sanitaire, il est quand même important que la loi joue un rôle. Alors, en ce moment précis, quel doit être le rôle de la loi, le cadre juridique qui doit entourer la santé publique?
La loi, c'est l'outil essentiel pour la gestion des questions d'urgence de santé publique. Vous n'êtes pas sans savoir qu'avec la Covid-19, les systèmes de santé que nous avons ont été beaucoup secoués, fragilisés.
Bien sûr.
Et donc, a montré l'échec que les pays, que ce soit les pays développés ou les pays moins développés, ont connu dans la gestion de ces urgences de santé publique, où certains, dans la précipitation, ont élaboré des cadres juridiques afin de mieux gérer l'urgence. Mmh. Et donc, il était très essentiel pour nous de réfléchir à travers un travail fouillé ce qui se fait, quelles sont les bonnes pratiques en termes de cadre juridique pour une meilleure gestion, une gestion efficace des urgences de santé publique. Donc c'est le travail que Resolve to Save Lives a eu à faire dans presque tous les pays, où ils possèdent des représentants pays et qui ont travaillé, qui ont analysé les situations et ont ressorti les caractéristiques nécessaires qu'il faut avoir dans un cadre juridique afin de rendre efficace la gestion des urgences de santé publique. Mmh. Je dis que ces caractéristiques, elles ne sont pas exhaustives, mais nous pensons qu'elles sont les meilleures qu'on pourra retrouver dans un cadre juridique efficace.
Oui, on va aller directement sur ces caractéristiques. Je crois que c'est là l'essentiel qu'on sache. Elles sont combien et comment doivent-elles fonctionner?
Nous avons essentiellement 12 caractéristiques. Oui. Elles sont 12, comme je le dis, et elles sont considérées comme universelles. Universelles. Il appartient à chaque pays de pouvoir légiférer en tenant compte de ces circonstances nationales sur la base de ces caractéristiques-là. Soit vous prenez un texte législatif global pour pouvoir intégrer toutes les caractéristiques dans le texte, ou bien le pays va voir, comme je le dis, les circonstances nationales et légiférer ou réglementer une situation donnée. Donc c'est de cette manière que ça fonctionne. Mmh. Et donc, en termes de caractéristiques, nous avons la première. Mmh. La première, c'est quoi? C'est que le cadre juridique doit couvrir la totalité d'une situation d'urgence. Donc quand je dis qu'il doit couvrir la totalité d'une situation d'urgence, c'est-à-dire que quand vous mettez en place un cadre juridique, il va falloir que ce cadre juridique soit beaucoup plus souple et être adapté à chaque situation. Qu'il arrive au moment de la flambée, par exemple, à contenir l'épidémie, qu'il arrive aussi à la tenir au moment venu, qu'il arrive également à aller à la suppression comme au relèvement. Donc c'est très important pour nous. Et même le cadre juridique, parlant de la totalité, doit avoir des mécanismes beaucoup plus robustes qui sont fixés et se préparer d'avance pour la gestion de l'urgence de santé publique. Et donc c'est essentiel. Mmh. Donc ça, c'est la première caractéristique.
Mmh. Et donc pour la deuxième
caractéristique, c'est que le cadre juridique doit pouvoir définir les événements déclencheurs d'une urgence de santé publique. Vous savez, c'est vrai que nous parlons des maladies infectieuses, mais le cadre juridique doit aller beaucoup plus loin, puisqu'il y a des maladies qui sont issues, par exemple, de l'alimentation, les radiations, les maladies émergentes qui existent. Donc, il faut un cadre juridique beaucoup plus qui embrasse de façon large.
Pour qu'à chaque fois qu'il y a une situation
qu'on puisse connaître des éléments nécessaires pour pouvoir agir. Donc ça, c'est le troisième élément.
Oui. Le deuxième élément.
Le troisième élément, c'est que le cadre juridique doit avoir une prise de décision beaucoup plus souple et fragile. Comme je l'ai dit, quand on fait face à une situation d'urgence, il y a des mécanismes essentiels qu'il faut avoir. Et ces mécanismes doivent définir de façon claire qui fait quoi et comment il le fait en matière du genre de santé publique. Et donc, déjà, le cadre juridique doit orienter tous les responsables de santé publique, que ce soit au niveau national, infranational, pour que chacun puisse savoir qu'est-ce qu'il fait. Au même moment, le cadre juridique, en ce moment-là, doit également prévoir des mécanismes de contrôle. Des mécanismes de contrôle. Parce que si vous donnez des prérogatives qui sont exceptionnelles à l'exécutif, par exemple, quand nous faisons face à une urgence de santé publique, il faut avoir des mécanismes de contrôle pour pouvoir, au moment venu, essayer de faire le contrepoids par rapport à ces décisions que l'exécutif doit prendre en ce qui concerne la gestion des urgences de santé publique. Au même moment, le cadre juridique aussi ne doit pas être de façon générale, comme je parlais de la souplesse, c'est qu'il faut qu'il y ait des mécanismes aussi d'extinction. Une agence de santé publique ne doit pas être la même tout au long. Il faut à un moment donné aussi dire là où nous sommes arrivés, il faut peut-être arrêter. Donc c'est ça le troisième.
Le quatrième, il est relatif à l'argent.
Oui, c'est le nerf de la guerre. La quatrième caractéristique que nous avions pu identifier, c'est de pouvoir financer adéquatement les systèmes de santé ou bien l'urgence de santé publique. Déjà, quand nous prenons le Togo, par exemple, nous savons quelles sont les agences, quels sont les responsables qui interviennent sur les questions de santé publique. Donc déjà, la loi de finances doit prévoir une ligne pour la prise en compte de tous ces éléments. Au même moment, il faut également déjà que le pays puisse penser à des ressources supplémentaires en cas d'urgence de santé publique. Donc le pays doit mettre en place des mécanismes pour pouvoir mobiliser ses ressources supplémentaires quand le pays fait face à cette situation-là. Et l'essentiel également là-bas, c'est que dans ce cas juridique, il faut faire la chose d'une manière à éviter tout ce qui est lourdeur administrative, parce que les gens sont au front. Donc, il faut un mécanisme qui va permettre un décaissement rapide vers ceux qui sont à la première ligne.
Pour trouver des solutions rapides.
Mais tout en mettant en avant aussi leurs responsabilités. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on vous envoie les fonds pour travailler, il n'y a pas de mesures. Mais au même moment, il faut également mettre en avant la responsabilité de ceux-là qui ont accès à ces ressources pour une gestion beaucoup plus efficace.
D'accord. Ibrahim, on va finir avec les caractéristiques là, et puis il y a d'autres questions qu'on va poser à M. Banka. M. Banka, on va aller à la cinquième. Doter les autorités de tous les outils de santé publique pertinents.
Oui, voilà. C'est aussi très essentiel. C'est aussi très essentiel. En matière de santé publique, nous avons des outils qui sont déjà là, qui sont connus quand nous faisons face à une situation normale. Et donc, le cas juridique doit distinguer les outils qu'il faut nécessairement avoir, qu'il faut nécessairement utiliser dans une situation normale et ceux qu'il faut avoir dans une situation anormale. Et donc, il est très utile. Je prends par exemple le guide de surveillance intégré de la maladie de la riposte, qui est aussi très très pertinent à utiliser dans ce cadre-là. Donc, il faut réunir tous ces éléments et l'essentiel également à ce niveau. Déjà, il faut prévoir, si nous faisons face à une urgence de santé publique, quel est le rôle, par exemple, du ministre, quel est le rôle du préfet, quel est le rôle du chef du village, quel est le rôle du maire, et que chacun puisse avoir une idée sur sa responsabilité dans la gestion de l'urgence pour éviter les cafouages et les confusions.
D'accord. La caractéristique, c'est respecter les obligations du RSI.
RSI 2005, c'est une obligation. C'est une obligation qui incombe tous les États. Tous les États partis l'OMS. Et donc, il est important déjà que notre cadre juridique puisse définir ou bien ce que nous appelons un point focal national. Il faut aussi tenir compte de tous les éléments en lien avec la notification. La notification à l'OMS, si nous faisons face à l'urgence. Tout à l'heure, la docteure parlait, vous avez évoqué la question des frontières. Il faut des mesures nécessaires, la responsabilisation au niveau de ces frontières-là pour éviter la flambée ou bien la propagation du virus. Donc, il faut tenir compte de tous ces éléments dans ce cas juridique au niveau du caractéristique.
D'accord. On va marquer une petite pause. On revient et puis on poursuit avec la septième caractéristique qui est de protéger les droits humains. Là où, quand vous écoutez les défenseurs des droits de l'homme aujourd'hui, tout le monde crie que par rapport à la pandémie, on bafoue les droits humains. On revient tout de suite. Retour dans cette émission avec nos invités. Nous sommes justement en train de parler avec M. Dossou Banka, du cadre juridique des urgences de santé publique. Et au passage, bonjour à notre ami Alassane Antarou, qui nous suit dans cette émission. Bonjour, chers confrères. Bien, M. Banka, on va aller directement. Nous parlions donc de la septième caractéristique qui consiste à protéger les droits humains. Où je disais qu'aujourd'hui, quand vous écoutez les défenseurs des droits de l'homme, ils ne sont pas du tout contents par rapport aux décisions prises par les autorités dans le cadre de la lutte contre la pandémie.
Oui, ça se comprend. Effectivement, une urgence de santé publique ne met pas en parenthèse le respect des droits humains. Il est essentiel. Nous avons les droits que nous appelons les droits qui sont non susceptibles de dérogation. C'est-à-dire, quand nous faisons face à l'urgence de santé publique, il y a des droits qu'il ne faut pas, qu'il ne faut jamais violer. Ce n'est pas parce que nous sommes en urgence qu'il faut atteindre la vie d'une personne.
Ce n'est pas
parce que nous sommes on fait face à l'urgence qu'il y aura la torture et autres. Donc, il y a des droits qu'il faut nécessairement respecter, quelle qu'en soit l'urgence. Ces droits sont issus du pacte international de civil et politique, et aussi le second, le pacte jumel, le jumeau, qui est aussi les droits socio-économiques. Donc, le droit d'alimentation et tout ça. Donc, ce sont des droits qu'il faut nécessairement respecter en matière d'urgence. Maintenant, il peut arriver qu'il y a des droits qui peuvent être dérogés. Maintenant, pour le faire dans ce cadre-là, il est essentiel de tenir compte des principes fondamentaux. Le principe de l'égalité. Et qu'est-ce que la loi ou bien le cadre juridique dit en ce sens-là? Il faut que ça soit prévu déjà par votre texte. Il faut également le principe de nécessité. La décision ou bien la mesure que nous prenons, est-ce qu'elle est nécessaire par rapport à la situation à laquelle nous faisons face? Le principe de non-discrimination. La mesure doit être la même pour tous. On ne peut pas prendre une mesure pour Lomé commune et prendre une autre pour, je ne sais pas...
On a eu le cas avec le passe vaccinal.
Voilà. Donc, c'est très important, d'accord, la loi de droit connaître. Et aussi la mesure de proportionnalité. Le principe de proportionnalité. Donc, les mesures doivent être les mêmes pour tout le monde. Donc, c'est important en ce sens-là.
Voilà. La huitième caractéristique, c'est intégrer des stratégies de santé qui fonctionnent.
Oui. Merci beaucoup, M. Moujou. C'est essentiel. L'urgence de santé publique ne bloque pas toutes les questions relatives à la santé. Donc, il y a des mesures qu'il faut respecter. Il y a les maladies chroniques qu'il faut prendre en compte. Il y a la vaccination qui est là. Donc, il est important en ce moment que l'État puisse penser à mettre en place des moyens nécessaires et efficaces pour pouvoir prendre en compte ces éléments-là. Les PCI, le contrôle, tout ça à leur niveau. Donc, c'est ça il faut avoir à ce niveau-là. Donc, tenir compte des personnes vulnérables. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quel soutien il faut apporter aux personnes vulnérables qui n'ont pas les moyens à pouvoir faire face à l'urgence de santé publique? Donc, c'est primordial, essentiel.
Assurer la circulation des données de santé à tous les niveaux de gouvernance, c'est la neuvième caractéristique.
Oui, il est très important également, puisqu'on a besoin de données, on a besoin de données pour pouvoir prendre des décisions. On a besoin de données pour pouvoir prendre des décisions. Donc, le cadre doit permettre une circulation des données. Les gens, ceux qui ont besoin de ces données-là, qu'est-ce qu'ils doivent faire avec ces données et la confidentialité tout autour de ces données. Vous ne pouvez pas prendre les données sur quelqu'un en cas de Covid et publier ces données-là, non. Donc, il y a l'anonymat qui est tout autour. Donc, c'est essentiel de pouvoir circuler ces données afin de pouvoir prendre des mesures, que le gouvernement puisse prendre les mesures nécessaires.
Oui, protéger les professionnels de santé. Ce n'est pas Dr Tchapchet qui va nous démentir, c'est primordial parce que ce personnel est au devant même de la lutte.
Oui, c'est important la protection des personnes de santé parce que ce sont eux qui font face à la crise, ils sont les premiers à être en ligne de mire. Donc c'est là-bas que je parlais en quelque sorte aussi de pouvoir faciliter la prévention, le contrôle des infections, les PCI, c'est aussi très important. C'est de pouvoir aussi, comme vous le savez, autoriser les indemnités et les avantages à ce personnel de santé qui fait face à la crise. Quand je parle de personnel de santé, c'est au-delà du médecin. Il y a la femme de ménage qui est là, il y a le chauffeur qui est là. Donc c'est important. Également aussi, c'est de renforcer leurs responsabilités. C'est de pouvoir tenir compte de tout ça là, puisque quand vous êtes là, vous êtes responsable dans la gestion d'une urgence. Tout le monde a le regard sur vous. Donc, il faut aller jusqu'à la protection même de la famille, de ce personnel de la santé-là. Parce que peut-être, il se peut que des mesures se prennent et la population serait réticente. Donc, il est essentiel de pouvoir mettre des garde-fous à ce que ce personnel de santé soit bien protégé.
Docteur Chapitre, je crois que vous avez tout cela. Il y a une assurance, tout ça. Il y a tout ça.
Mais il faut dire qu'en matière de...
Avant de poursuivre, M. Banka, oui.
En matière de PCI, comme on le dit, c'est vraiment l'occasion de féliciter nos autorités parce que depuis le début de la crise jusqu'alors, le personnel de santé sur toute l'étendue du territoire est toujours doté en cache-nez ou encore en bavette chirurgicale.
Et de l'autre côté,
il y a des indemnités
au centre de prise en charge, je crois qu'il y a toujours ce matériel-là qui vous permet de vous protéger.
Oui, jusque dans toutes les formations sanitaires, même à la base, que ce soit dans nos USP, dans nos CMS et comme dans les hôpitaux, ce matériel est mis à disposition du personnel, de même que les gels hydroalcooliques et tout ce qui va. Et ce n'est pas seulement mis, il y a des équipes de suivi qui sont là tout le temps pour s'assurer que le matériel donné est véritablement utilisé. Et il en va aussi de notre responsabilité en tant que responsable des centres de s'assurer que le personnel, on leur donne le matériel, mais qu'ils les utilisent vraiment pour se protéger soi et protéger en retour leur famille.
Et mais je crois qu'il y a aussi un peu de sous. Hein. Bon, on va parler. C'est juste pour vous taquiner. Laisse que nous, les journalistes, on attend aussi depuis. Ça n'arrive pas. On va poursuivre, on va revenir pour vos commentaires, s'il vous plaît. On va terminer avec M. Banka. M. Banka, appliquer les règles sans imposer de sanctions injustes, hein, c'est la 11e caractéristique.
C'est aussi primordial. Il est important à la population de respecter les mesures qui sont prises. Au même moment, il faut que cette population ait confiance aux gouvernants. En ce sens que les gouvernants eux-mêmes doivent être le modèle dans le respect de ces mesures-là, pour pouvoir avoir beaucoup plus confiance à cette. Pour que la population puisse faire beaucoup plus confiance aux mesures qui sont.
Et comme ça, quand il y a des choses qui sont dites, les gens respectent tout tranquillement, il n'y a pas d'obligation là-bas. Alors, favoriser la transparence, c'est la dernière, la 12e caractéristique de ce travail que vous avez fait.
Oui, la transparence ici se voit beaucoup plus au niveau des informations qui sont véhiculées. Qui sont véhiculés quand nous faisons face à une urgence de santé publique. Donc vous êtes, nous sommes ici ensemble avec le docteur. Donc c'est que c'est les personnes qui doivent, des personnes ressources qui doivent avoir des vraies informations. Oui. Donc il faut que déjà le cadre juridique puisse amener la population à avoir des informations réelles, et pouvoir mettre fin en tout cas. Aux informations, à la désinformation. Donc c'est ce qui est très important puisqu'on a besoin que les gens respectent les mesures, on a besoin de stopper l'épidémie. Il faut avoir des informations factuelles, des vraies informations à la population et mettre des mécanismes sur place parce que quand une fausse information sorte rapidement, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir arrêter cela et amener beaucoup plus la population à la confiance.
Voilà. Maintenant, je voudrais que vous nous parliez un peu dans quel cadre tout ce travail-là a été fait et avec qui cela a été, grâce à qui plutôt cela a été réalisé.
Le travail que nous faisons, nous avions commencé cela depuis janvier 2020. 2020 avec le soutien de Resolve to Save Lives, qui est une initiative de Vital Strategy. Vital Strategy, c'est une organisation américaine, elle est basée aux États-Unis, à New York précisément, et qui a des bureaux régionaux et avec des experts pays qui travaillent sur ces thématiques. Donc ils interviennent, on intervient dans plusieurs pays d'ailleurs. Au Togo, ce n'est pas seulement l'aspect juridique même qui est pris en compte, il y a d'autres aspects qui sont pris en compte en ce qui concerne la recherche des cas quand la COVID a commencé. Donc il y a aussi, le Togo par exemple bénéficie aussi d'autres financements à travers les fonds auxquels le Resolve to Save Life participe. Donc c'est avec cette structure que nous faisons ce travail depuis 2020 et avec le ministère de la Santé, le secrétariat général du ministère de la Santé, précisément la division des affaires juridiques avec laquelle nous réfléchissons depuis l'avènement de COVID à l'élaboration des tests, des décrets, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir contenir la pandémie, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Donc c'est ce travail que nous faisons et nous continuons par le faire. Nous avons fait tout d'abord une évaluation d'ailleurs de tout le cadre juridique au niveau national et nous avions réfléchi déjà et nous commençons par réfléchir à l'élaboration, à la mise à disposition du Togo d'un test législatif des urgences de santé publique pour que le pays puisse avoir les outils nécessaires afin de pouvoir encadrer les urgences de santé publique.
C'est vrai que je ne veux pas comparer la parole, mais pour terminer, avant ta question, quand vous avez fait l'évaluation au niveau du cas juridique en vigueur au Togo, qu'avez-vous trouvé?
L'évaluation au niveau du cas juridique en vigueur au Togo, ça a été beaucoup plus salué. Nous avions beaucoup salué ce qui a été fait, surtout par la mise en place des coordinations, parce que le cas juridique nécessite demande cela. La mise en place des coordinations des communautés sectorielles qui sont là, qui informent les hautes autorités, le gouvernement, sur ce qu'il faut faire à un moment donné, ce qu'il ne faut pas faire à un moment donné. Donc on a beaucoup apprécié tout ce que le Togo a eu à faire. Et aussi, le Togo aussi a mis beaucoup de moyens en ce qui concerne l'élaboration des tests. Le Togo détient aujourd'hui tout un compilé de tests en matière de gestion de la COVID-19. Donc c'est quelque chose que nous avons beaucoup salué. Ce sont des bonnes pratiques que nous avions saluées et qu'il faut normalement répéter. Et se préparer éventuellement, on ne sait jamais, à une autre épidémie. Là, nous sommes dit que non. Il faut avoir beaucoup beaucoup plus les mécanismes pertinents, permanents, et ne pas attendre la survenue, bien la survenue d'une épidémie avant de chercher à faire les choses
au cas par cas. On a couru dans tous les sens. Oui, Ibrahim.
Oui, moi, je voulais revenir au niveau des caractéristiques. Vous les avez citées. Vous avez parlé de, je pense, du 7e, ouais, de la 7e, qui parlait un peu de d'avoir des moyens.
Oui, c'est la quelième, justement.
Il n'y a pas de souci. Nous savons qu'il y a cette caractéristique. Et vous avez parlé aussi des moyens, et vous avez parlé aussi de la logistique à mettre quand même à la disposition du système sanitaire. Mais au-delà de tout, je ne vois pas une caractéristique qui parle de la reddition des comptes. Parce que vous venez de parler aujourd'hui de l'évaluation. Ouais. Puisque quand vous mettez en place tout ça, là, est-ce qu'il ne peut pas avoir...
La transparence, on parle de la transparence, je ne sais pas.
Oui, c'est au niveau du financement. Je vais parler de financer de façon adéquate.
Oui.
Et quand je parlais du financement, je disais que déjà, nous connaissons tout ce que nous avons, les défis que nous avons en matière de santé publique. Et donc déjà, les lois de finances doivent prévoir tous ces mécanismes avec des fonds supplémentaires.
Ouais.
Et éviter, par exemple, qu'il y ait de l'odeur administrative pour pouvoir détecter le fonds.
Voilà.
Moi, je parlais de la responsabilité.
Tout à fait.
Non, c'est la réduction des comptes, en fait.
Voilà.
Ce n'est pas parce que nous sommes en urgence qu'il faut sortir de l'argent et ne pas faire une réduction des comptes.
Voilà.
Il faut nécessairement après s'asseoir pour dire qu'est-ce qu'on a fait en termes de gestion des ressources que nous avons, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a marché. Donc, c'est important.
Merci.
Voilà, docteur Tchapchette, voilà, ce cadre juridique, je crois que c'est quand même important de pouvoir le relever en ce moment où nous sommes en pleine crise, au lieu de courir dans tous les sens, savoir vraiment vers où on veut aller. Votre appréciation?
Ce qu'il faut dire, le constat qu'on fait, c'est que véritablement, ce qui est fait au niveau de notre pays... respecte ou rentre dans ce cadre juridique là, parce que à écouter chaque caractéristique, nous voyons véritablement des actions menées qui allaient dans ce sens. Si on prend peut-être l'exemple du financement adéquat, on sait aussi que au niveau de notre pays, depuis que la COVID a commencé, des mécanismes de dons et autres étaient mis en place, et ceci sous la transparence de toute la population, parce que ces fonds ont toujours été publiés, mis à nu, pour dire que voilà, il y a peut-être des rentrées de fonds, mais les uns et les autres savent qui fait quoi. Et après, parce que, comme le disait l'expert, les comptes sont rendus, ce sont des choses qui marchent. De la même façon, on parlait des actions qui doivent être menées selon les situations et qu'on puisse avoir des moments, un moment donné, qu'on puisse dire c'est bon, parce que voilà, si on prend le cas des mesures restrictives qui sont souvent mises en place par le gouvernement, il s'agit des mesures souvent prises devant peut-être des cas qui augmentent. Et ces mesures-là sont prises pour un espace ou un temps défini.
Oui.
Et quand il y a réajustement, quand les choses retournent à la normale, ces mesures-là sont levées.
Oui.
Et c'est aussi pour faire comprendre à la population que voilà, ces mesures restrictives ne sont pas prises pour aller à l'encontre de leurs droits. Mais c'est aussi parce qu'en matière de santé publique, il faut agir pour... parfois agir, on va peut-être dire en excès, mais par après, avec les résultats, on comprend que cela avait été indispensable.
Oui.
Sinon, on aurait eu peut-être quelque chose qu'on n'aurait pas contrôlé. C'est le cas de la mesure de la vaccination où on demandait les passes pour pouvoir avoir accès aux institutions. Voilà, la population avait été un tout petit peu mécontente, mais avec les chiffres, comme je le dis, qui avaient vraiment régressé par après,
beaucoup.
On se dit, voilà, on était en surcharge hospitalière, on était avec des pics de décès énormes, et juste après cela, je pense aussi que la population a compris que c'était vraiment indispensable.
Monsieur Bancal, le cadre juridique des lois sur la santé publique n'est pas le même dans tous les pays. Qu'est-ce qui explique cette différence entre les divers pays? Existe-t-il des similitudes entre les États aujourd'hui? Quand vous regardez, les gens disent non, dans tel pays, par rapport à la riposte, c'est léger. Ici, on corse les choses. Ce n'est pas stable partout.
Oui, ce n'est pas stable partout et c'est normal. Les pays n'ont pas les mêmes besoins.
Ouais.
Les pays ne fonctionnent pas sur les mêmes circonstances.
Mmh.
Donc, chaque pays, tenant compte de ses besoins, des circonstances, va mettre en place son cas juridique qui répond à ses priorités, à ses besoins et circonstances.
Une question, Ibrahim. ou un commentaire sur ce travail qui a été fait.
Non, c'est un travail que j'apprécie beaucoup, mais c'est un juriste qui a fait ce travail, c'est vrai. Quelle est votre appréciation sur le système sanitaire togolais? Parce que quand vous avez parcouru les tests, vous avez découvert beaucoup de choses, et j'ose croire que vous avez une appréciation globale du système sanitaire togolais. Est-ce que c'est efficace? Qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer? Surtout que tous les systèmes sanitaires dans le monde ont été éprouvés par l'apparition de coronavirus.
Merci beaucoup. Vous avez dit que tous les systèmes ont été éprouvés.
Oui.
Même les systèmes des pays développés,
hein, oui,
nos modèles ont été éprouvés. Et donc, je pense que le Togo dispose quand même d'un système qu'il faut apprécier. Et ce que j'ai beaucoup salué d'ailleurs, c'est le niveau, hein, c'est le niveau de prise de décision au niveau, en ce qui concerne le Togo. Ça, c'est le niveau supérieur, c'est la première autorité qui, déjà avec l'avènement de Covid, a pris des mesures nécessaires. Nous avons même rédigé un article là-dessus à Resolve to Save Life pour parler des succès du Togo à travers l'élaboration des textes pour la gestion de cette Covid. Donc, le Togo, sincèrement, a fait beaucoup d'efforts. Vous avez aujourd'hui les chiffres.
Oui.
Donc, c'est beaucoup à saluer. Donc, nous avons un cadre efficace, sauf qu'il faut maintenant revoir et éviter prochainement d'aller dans la précipitation et asseoir déjà un cadre beaucoup plus permanent. Donc, quelles sont les institutions qui sont là? Comment est-ce qu'il faut préparer? Comment est-ce qu'il faut riposter? Déjà, en avant, d'avance, il faut avoir ces éléments-là. Donc, c'est très important et ne plus attendre qu'une épidémie vienne nous surprendre et de courir de gauche à droite.
Très bien. On va conclure avec M. Bankara.
Merci beaucoup. Merci.
C'est nous que vous remercions pour tous les développements que vous avez.
Merci, madame. Merci, chers journalistes. Je voudrais vraiment remercier également ici, profiter de l'occasion pour remercier le gouvernement et surtout le ministère de la Santé avec qui nous collaborons sur ces questions des agents de santé publique.
Merci beaucoup, monsieur Dossou, Banca consultant, juriste près de Resolve to Save Lives. Docteur Sonia Tchatchet également, merci d'être venu dans cette émission, médecin chef de la commune à Guenivé, deux responsables du CMS Legbacito. Cher confrère Ibrahim, merci. Vendredi, on se retrouve. C'est ici que prend fin cette émission que je vous remercie d'avoir suivi. Merci à nos invités. Roger Telou a assuré la mise en onde. À la présentation, je suis Mathieu Mousse. On se retrouve derrière le week-end. Au revoir. Yeah.